Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture commune ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et cette semaine, c'est un épisode où c'est un invité qui m'accompagne. Avec moi, il y a donc Asmar. Bonjour Asmar.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast. Comme d'habitude, nos épisodes avec les invités commencent avec la présentation de l'invité. Donc je t'en prie, qui es-tu ?
Moi c'est Asmar, mon prénom c'est Rémi, bon, c'est pas un secret. Je suis issu du monde de la fiction sonore, plus précisément le forum Netophonix, un site qui existe depuis 2017 maintenant, et qui réunissait tous les amateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les fictions sonores, mais qu'à l'époque on appelait des sagas MP3, c'est-à-dire que, à l'inverse de ce qu'on considère aujourd'hui communément comme des fictions sonores. Là, il s'agissait de faire de la fiction, certes, mais de manière parfaitement amateur, c'est-à-dire dans nos temps libres, avec le moyen du bord, avec des tutos partagés entre nous au sein de la communauté, et de le partager gratuitement sur Internet. C'était ça le grand truc. Et donc, ça impliquait de savoir quel micro pas trop cher prendre, comment bien enregistrer avec les moyens du bord, c'est-à-dire savoir se fabriquer, par exemple, un préampli avec une chaîne hi-fi, se fabriquer un antipop avec des chaussettes,
comme moi, là.
Tout à fait, et du fil de fer, ou alors simplement un crayon. Tu mets juste un crayon devant ta bouche et ça dévie, en fait.
Mais
le...
non.
Mais si, mais ça marche. Ou ton doigt, juste ton doigt.
Mais non. Donc, on va faire l'épisode avec le doigt devant la bouche.
Voilà. Tout ce genre de petites astuces qui ont permis de créer des trucs très connus comme le donjon de Nalbuk et d'autres beaucoup moins connus, c'est-à-dire 90% de la production de l'époque.
Ouais.
Mais voilà, qui a permis surtout de créer une communauté de gens soudés qui sont encore toujours aujourd'hui mes amis et que je continue de fréquenter par le biais non seulement de fiction sonore mais aussi de podcasts, puisque j'ai pu participer à plein de podcasts à l'époque aussi avec d'autres fans de la saga MP3 qui ont créé des web radios à une époque où il n'y avait pas d'outils pour diffuser en ligne. Il fallait tout créer à la main, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez essayer de chercher dans les archives des noms comme Synops Live, puis Radio Kawa, Radio JV. D'ailleurs, les sites sont toujours disponibles. Hein. Et puis, plus récemment, sur Blueprint, où j'ai pu participer à des émissions comme La Cartouche ou chez Yann, en tant qu'invité, comme aujourd'hui, ou en tant que monteur aussi. Puis quoi d'autre ? Oui, il m'arrive de dessiner. J'ai même pu commettre, à ce titre, un tome de bande dessinée justement inspiré d'une saga MP3 qui s'appelle Chez le Psy et qui est disponible sur le site du même nom, donc chezlepsy.net. Pas cher.
Eh bien ça, je le découvre, je le savais pas, parce que, alors, il faut savoir qu'avec Asmar, on s'est rencontrés autour de rencontres, justement, autour du podcast sur
fait.
Toulouse. Et au final, je ne savais pas que tu avais fait
Oui, tout à fait. À la base, j'avais juste été contacté par le Mago à une époque où j'avais encore un blog BD. Bah, encore le genre de choses qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, hein, malheureusement, quelque part. Mais effectivement, je tenais un blog BD et j'avais fait un petit strip inspiré de la saga MP3 chez le Psy. Et c'est lui qui ensuite m'avait contacté en disant « Ouais, est-ce que ça te dit de continuer de faire des petits strips, on les publiera sur le site et tout ça. » Et on en a fait quelques-uns. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit « Hey, si on faisait carrément une bande dessinée ?» Et on a dit banco, et on a vendu la caravane, et on a monté une campagne de financement participatif, et le pire, c'est que les gens ont été d'accord, ils nous ont donné des sous, et on l'a fait, et puis voilà. Du coup, ensuite, ça a été disponible, du coup, auto-publié, c'est sur le site et tout, et on a presque tout vendu, c'est ça qui est encore plus dingue, quoi.
Ah ouais, mais du coup c'est sorti il y a combien de temps ?
C'est sorti en 2019.
D'accord. Ouais,
donc ça commence à faire un petit moment quand même.
Et du coup, c'était de l'auto-édition ?
Tout à fait.
Donc vous avez dû choisir l'imprimeur, faire plein de choix tout seul.
C'est surtout mon collègue dans cette petite entreprise, le Mago, donc le créateur de la saga MP3,
ouais,
qui est aussi un graphiste, qui est aussi membre d'un groupe de métal dans lequel il s'est beaucoup investi, il a sorti plusieurs albums et tout ça. Tout est disponible sur le site Mago Yonde. C'est surtout lui qui s'est occupé de toute la partie l'édition, contacter les différentes chaînes de production et tout ça. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, et c'est ça qui est formidable dans ce genre de projet auto-édité, c'est que j'ai vraiment pu juste me concentrer sur le dessin et y aller à mon rythme, parfois peut-être un peu trop à mon rythme, je le regrette un petit peu, mais ce qui compte, c'est que c'est sorti et que c'est cool, parce qu'on avait fait depuis des séances de dédicaces et tout, des gens ont acheté la BD et tout, c'était vachement sympa. Ouais.
Eh ben, voilà. Je suis ravie de le découvrir maintenant.
Eh ben, merci. Si tu veux me faire encore plus plaisir, va sur le site et achète la BD.
C'est bien mon intention. Et alors, vu qu'on parle BD, on va très rapidement enchaîner sur ton profil en tant que lecteur, mais j'en profite pour faire un petit coucou aux BD Fugue, puisque c'est eux qui nous reçoivent aujourd'hui. On est dans leurs locaux, dans leur café. Merci à eux.
C'est vachement bien, on est super bien entourés. J'ai Juanjo Guarnido à ma droite, j'ai Mobius à ma gauche. C'est même un petit peu oppressant, quelque part. On se sent un peu jugé, surtout par Black Sad, là. Il nous file un regard noir, là, depuis... On se sent un petit peu observé. Mais sinon, c'est vrai que c'est un cadre génial. Je suis très content que tu aies choisi cette librairie. Ça fait partie des nombreuses librairies que j'écumais à l'époque sur Toulouse, quand j'étais encore étudiant ici. Ça fait plaisir.
Donc ça fait un moment que t'es pas revenu ici.
Depuis que j'ai laissé tomber les études et que je suis passé à mon métier d'aujourd'hui, qui est ambulancier. Du coup, je suis plus sur Toulouse, mais je viens de temps en temps, notamment pour des émissions de podcast et des rassemblements au Level Up et voilà, ce genre de choses.
Alors du coup, on peut maintenant passer à ton profil en tant que lecteur.
Tout à fait.
Quel lecteur es-tu ?
À la base, je suis un gros lecteur jeunesse, évidemment. J'ai appris à lire avec les BD que mon père tenait lui-même de son père, je crois, donc... les Tintins, Astérix, tous les classiques.
La base effectivement. Dans les BD.
J'ai très peu évolué finalement. C'est vrai, hein. J'ai très peu évolué dans la mesure où même aujourd'hui les BD que je consomme, même si c'est pas forcément des trucs aussi éculés que Boulet-Bille ou quoi que ce soit, ça reste quand même assez orienté vers un public jeune, adolescent, tout ça. Je me suis beaucoup épanoui dans ces lectures, il y a aucun souci. C'est vrai que tout ce qui est vraiment orienté adulte, avec des thèmes adultes, j'en lis pas énormément en fait. Ça reste soit des franchises, soit des genres vraiment connoté pour les adultes. Donc soit les BD de super-héros, soit les mangas shonen. Le shonen, comme le nom l'indique, en japonais, ça veut dire jeune homme. Ouais. C'est vraiment fait pour attirer un public de jeunes garçons, adolescents, tout ça. Et il n'y a pas de souci, parce que même au sein de ces franchises-là, il y a parfois des souffles d'inspiration qui se font. Et du coup, par exemple, la BD Hawkeye, donc, qui s'intéresse aux super-héros du même nom qu'on a déjà vu dans les Avengers, notamment, et qui avait été repris le temps d'un run de 12 à 20 chapitres, je suis plus sûr exactement du chiffre exact, mais dans ces eaux-là, par le scénariste Matt Fraction et le dessinateur David Aja, qui ont vraiment repris le personnage et fait quelque chose de complètement fou avec, à tel point que non seulement c'est une des meilleures bandes dessinées de super-héros encore à ce jour, c'est une des meilleures BD juste à ce jour. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui se font, même au sein de la BD jeunesse. Généralement, quand on dit le mot BD jeunesse, il y a une connotation assez péjorative qui vient avec. Mais en vrai, c'est vachement bien à lire, quoi. Même en étant adulte. Donc, voilà.
Moi, je trouve qu'au contraire, même en étant adulte, déjà, ça permet de garder un peu de son âme d'enfant.
Tout à fait.
Et puis, comme c'est un format très graphique... Au final, ça se lit vite. Enfin, je veux dire, c'est pas comme lire un classique de 700 pages, ça prend 3 plombes. Et ça fait pas de mal, ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai aucun mauvais préjugé là-dessus, pour le coup. On peut maintenant passer au moment où tu nous dévoiles ce que tu as choisi de recommander dans cet épisode, sachant que on est du coup sur un épisode orienté manga BD. Donc, quel a été ton choix ?
Il y a un happening parce que j'ai amené avec moi le sujet de ma discussion. Comme on voit, ça s'appelle Freak Squill. C'est sorti en 2009. Ça a été scénarisé et dessiné par Florent Maudou, un artiste lyonnais, à une époque où Ankama, donc la maison d'édition, n'était pas encore très connue pour ses bandes dessinées. Ils étaient surtout connus pour leur univers cross-média Dofus, donc les jeux vidéo, la série animée Wakfu. Ils avaient fait une bande dessinée, justement, Dofus. Le dessinateur, c'était Ancestral Z, si je me souviens bien. Mais ils étaient surtout connus pour ça à l'époque. Ils avaient comme chef d'édition un mec qu'ils avaient édité quelques années avant la sortie de Freak Squill, qui s'appelait Renard, plus connu sous le pseudonyme de Run, et qui avait fait la BD Metafocase, une espèce de gros chef-d'œuvre indépendant, mélangeant combat au sabre, théorie du complot, kung-fu,
un truc
pro-wrestling aussi, des masques de catch et tout, enfin c'était vachement bien, surtout pour moi qui commençais à sortir un petit peu de l'adolescence, j'étais à quelques années de la fin du lycée, et je voulais lire des trucs un petit peu différents, et ça m'a tapé dessus comme une tonne de briques, et j'ai dit « Wouah, putain, c'est trop bien !» chose. Depuis ça, j'avais guetté un petit peu ce qui allait se faire du côté de Ankama, et c'est là que Freak School est sorti, en même temps qu'une autre BD d'Ebazer. C'est pas pour rien qu'elles sont sorties en même temps, c'est que ces trois œuvres réunies ont fondé le label qu'on voit sur la couverture, le label 619, qui, au sein des éditions Ankama, allait vraiment tenter de mettre en avant des œuvres un petit peu série B, décalées, qui allaient rendre hommage à tout un pan de la culture populaire qui était généralement un petit peu laissé pour compte, avec des sujets pas très intéressants, pas très vendeurs.
Ouais, c'est surtout pas très vendeur.
Voilà, en faire quelque chose de nouveau et de frais, quoi. Quand j'ai vu ça pour la première fois, déjà, on va regarder quelques pages, hein. C'est juste fou, déjà, quand on considère le nombre de pages, qu'il a su garder une espèce de qualité comme ça. Regarde un petit peu les dessins.
Moi, bien quand les dessins sont comme ça, il y a des traits hyper fins.
Mais oui, mais
il y a du détail.
Il y a une taille fourmillement de détails, et c'est vraiment beau à voir, quoi. Ça mélange plein d'influences aussi. On voit du franco-belge, on voit du manga dans les expressions aussi, un petit peu, avec les lignes d'action comme ça. Qu'est-ce que ça raconte, Freak Squill ? Eh bien, ça raconte l'histoire de trois étudiants, ceux qu'on voit sur la couverture, qui débarquent dans une université de super-héros, dans un monde semblable à la France, mais dans lequel il y a eu des êtres extraordinaires qui sont intervenus et qui ont un petit peu changé le cours de l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils sont pas très doués. C'est pas forcément les meilleurs dans leur partie, quoi. Par exemple, le personnage de Ombre, il est très fort, mais il est très gentil. Jean Mao est très intelligente, mais elle est très faible. Chance, elle a très peu pour elle, c'est-à-dire qu'elle peut voler, elle a des petites cornes qui la font se démarquer, hein, tu vois, mais elle se démarque surtout par sa personnalité. Elle est très ouverte aux autres et tout ça, et elle compense un petit peu sa faiblesse physique par la ruse, par la triche, ce genre de choses, quoi.
La manipulation.
Exactement. Et ils vont évoluer au sein d'une université qui elle-même est considérée comme une unité de seconde zone, la faculté d'études, d'apprentissage des héros. Ils vont se rendre compte qu'au-delà du simple fait qu'ils sont dans une université de seconde zone et qu'ils sont même pas eux-mêmes les meilleurs de cette université, il y a tout un bail de complots et de machinations qui se trament autour du corps enseignant et même du corps directoire au niveau des doyens de l'université. Ça brasse plein de thèmes qui m'ont parlé, forcément, puisque moi je sortais du cursus secondaire. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, en gros, et là il nous dit que non seulement l'université c'est pas pour tout le monde, mais en plus il y a des intérêts politiques qui se jouent au sein de la notion d'enseignement, que ça implique parfois au sein du corps décidant de faire des compromis pas très clairs et qui vont se répercuter après sur les étudiants et sur leurs chances plus tard dans la vie, quoi.
Il y a aussi dans toute la partie direction des intérêts un peu personnels pour leur propre évolution de carrière.
Tout à fait. Sans compter que il s'agit en gros de plein d'élèves avec plein d'hormones qui flottent, tous réunis au même endroit. Et en plus, quand ils ont des super pouvoirs, ça fait un sacré bordel, quoi.
Ça fait un peu penser aux X-Men en même temps que Community, des choses comme ça, quoi.
Mais en prenant vraiment le contexte de la faculté au premier degré, il y a des cartes d'imprimante, il y a des points de TP, il y a des examens à passer et tout.
Ouais, donc ils vont en cours. Voilà. Ils font des groupes d'études, partagent les cours ou pas.
Il y en a certains qui doivent faire un petit boulot à côté parce qu'effectivement, ils ont pris un crédit auprès de leur banque pour pouvoir rentrer dans l'université. Tout à fait.
Et puis, il doit y avoir, vu qu'il y a des hormones, des histoires d'amour.
Il y a des histoires d'amour, évidemment.
Là, tu me fais plaisir.
Tout à fait. Et notamment entre les deux personnages principaux, Jiang Mao et Ombre de Loup. Et il y a aussi effectivement plein de références à ce que je disais, à des œuvres de série B, à plein de films complètement oubliés, des contrefaçons hongkongaises de films connus et tout ça, qui se sont fait une belle réputation sur Internet. Il y a des références à la classe américaine, enfin, il y a plein de références partout pour celui qui cherche. Tout ce brassage de choses, ça donne vraiment une œuvre unique, et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et pas que pour moi, puisque ça a été un succès retentissant, à tel point que non seulement il a réussi à faire 7 tomes de sa bande dessinée, mais il a fait aussi des spin-offs, il a fait aussi un jeu de rôle qui est extraordinaire, que j'ai pu expérimenter avec d'autres personnes, et c'est vraiment un univers très riche et super sympa à suivre, quoi.
D'accord, donc tu vois, ça t'a répondu à une de mes prochaines questions, parce que là c'est le tome 1 que tu m'as apporté pour découvrir, donc évidemment on parle surtout du tome 1, mais il y a en tout 7 tomes,
c'est ça.
Et la série est terminée.
Il a continué à étendre l'univers avec des spin-offs, donc on peut compter Massico, on peut compter Freak Squill Rouge qui se passe avant, quand Jean Mao est encore au lycée. ça se concentre sur le personnage de Xiang Mao, qui est en fait vraiment le personnage principal de la série, finalement. Funérailles, qui raconte les aventures d'un personnage qu'on rencontre plus tard dans la bande dessinée. Enfin, il y est dans le tome 1, mais on apprend plus qui c'est au fur et à mesure des tomes, évidemment. On apprend qu'il vient d'un autre monde, et ben justement, Funérailles, ça raconte comment ça s'est passé, lui, dans son monde, quand il était plus jeune, toute son histoire et tout ça, qui est très riche, qui brasse encore plein d'univers différents. Le dernier spin-off de la série Freak Squeal, Trauma Center, qui se passe à l'infirmerie du campus.
C'est pas mal, c'est un point de vue intéressant.
Tout à fait.
Parce que souvent, il y a beaucoup du après, donc quand les personnages ont terminé leurs études,
tout à fait.
Avec la fameuse IV cure heureux, il y aura beaucoup d'enfants, leur vie d'après. Et c'est rare d'avoir un point de vue de l'infirmerie.
Ouais, je trouve ça génial. Fait. Mais d'ailleurs, ça se passe après, mais c'est anecdotique en fait le contexte. C'est surtout pour donner à voir un aspect de l'université qu'on ne connaît pas forcément. Quoi. À un moment où les élèves sont au plus bas d'un point de vue physique ou moral, y a quelqu'un qui vient, qui écoute leurs problèmes, puisque au Trauma Center, il y a un psychologue aussi. Donc on écoute leurs problèmes, on règle les bobos quand il y a des bobos, et puis on les aide à aller de l'avant.
Il faut dire que souvent, quand on commence nos études, surtout, les hormones, c'est pas encore réglé. Hein.
Non.
Donc la plupart du temps, on a juste besoin de déverser un peu d'hormones d'une façon ou d'une autre.
Et il y a beaucoup de ça. Et comme j'ai dit, quand on a des super pouvoirs, quand on déverse, des fois, ça fait des dégâts.
Alors justement, j'aimerais bien qu'on aborde un peu toute la partie univers. Donc ils ont des super pouvoirs. Est-ce que ce sont des créatures qui ont des noms en particulier? On leur a donné des noms?
Non, pas vraiment. C'est un fait qui a été plus ou moins admis au sein de la société des citoyens ordinaires. Il y a des gens qui ont des capacités extraordinaires.
D'accord.
Dans le lore de la série, ça remonte à une époque avant la période industrielle, même il y a des références à l'Antiquité, tout ça.
Okay.
Dans lequel il y avait des premiers rapports de gens qui étaient un petit peu bizarres, ils étaient un peu petits, ils avaient des têtes étranges et tout ça. Et pendant un certain temps, ils ont été mis en marge de la société. Et puis, il y a un monsieur qui s'est dit, au lieu de les mettre de côté, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous rapporter. Et il s'est fait un business un petit peu grâce à ça. C'est lui qui a monté la première école entièrement réservée aux gens de ce genre-là. Et à partir de là, y a plein de choses qui se sont passées, qui ont fait que le nombre de gens avec des capacités extraordinaires s'est multiplié. Alors, les véritables origines divergent, chacun y va de sa petite histoire, mais en vrai, on ne sait pas, et en vrai, c'est pas très important.
Oui, c'est pas ça.
Toujours est-il qu'ils sont là, et que y a la profession de super-héros qui s'est développée, qu'il y a des unités de super-héros qui se sont développées, à tel point que même la notion même de super-héros a été complètement galvaudée, à tel point qu'il y a des domaines qui n'ont rien à voir avec le super-héros, comme la mécanique ou la santé ou quoi que ce soit, qui se sont mis à dire que oui, nous aussi on a des formations de super-héros, alors qu'en vrai ça te permet juste d'avoir un diplôme normal, mais quand tu es très très bon, et on dit que tu es un super médecin ou un super mécano ou un super boulanger.
J'adore. Voilà.
Et justement, et c'est là que s'illustrent des universités, normalement comme la FEAH, même si elle est considérée comme une université de seconde zone, voire même comme une université de super vilain aux yeux du public. Ah oui, oui. Parce que eux forment de vrais super-héros, quoi. Même si, dans la réalité, il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de cursus et qui passent à autre chose, qui justement se mettent à avoir des activités pas très légales, forcément, quoi. Mais justement, ça fait partie du propos de la BD. Il y a les étudiants qui découvrent tous ces états de fait et qui sont là en mode « Mais en fait, on se fout de notre gueule, quoi. Il faut renverser la table un petit peu. Il faut essayer de faire bouger les choses. »
Révolution.
Exactement. Ça parle de révolution. Il y a des barricades qui sont dressées dans
le top 7. Il y a des grèves, des manifestations d'élèves.
Oh, ah oui, ça va très très loin.
En fait, c'est tellement plus proche de notre monde que ce qu'on pourrait croire.
Tout à fait. On va pas sauver l'univers, on va sauver le système d'éducation. Et c'est déjà,
C'est déjà pas mal. Parce qu'on est d'accord que si le système d'éducation était mondialement sauvé, on aurait peut-être sauvé l'univers.
Il y aurait moins de super vilains.
Et bien, moi, je trouve ça hyper intéressant. En plus, ça me fait penser, quand tu parles d'industrie autour des super-héros, tout ça, ça me fait penser à The Boys.
C'est vrai.
Je sais pas si tu connais.
Mais j'adore. Le dessinateur de The Boys, Derek Robertson, ça fait partie d'un de mes artistes préférés. J'avais beaucoup hésité avant de venir. Est-ce que je parle de Freak Squeal ou est-ce que je parle de Transmetropolitan, qui est une autre BD dessinée par Derek Robertson, mais cette fois scénarisée non pas par Garth Ennis, mais par Warren Ellis, qui est un autre délire encore, mais on va pas passer 2 heures non plus sur cet épisode-là. Mais voilà, juste noter le titre Transmétropolitane, vous me remercierez plus tard. Voilà.
C'est une recommandation bonus.
Tout à fait. C'est gratuit. Amusez-vous.
D'accord. Oui, bah justement, ça allait être une de mes questions. Est-ce que ça a été facile de le choisir ? Donc, tu viens de dire que tu as hésité entre deux. Au final, pourquoi tu as choisi celui-ci ?
J'ai choisi celui-ci parce que celui-ci m'est plus resté dans la durée, alors que Transmétropolitan, même si ça reste une de mes BD préférées, je me rends compte, malgré moi, hein, c'est pas volontaire, que je la relis moins souvent. Celle-ci m'est restée beaucoup plus longtemps par son univers, par ses personnages, tout ça. Puis, il y a une certaine fierté aussi. Voilà, c'est la France, c'est les auteurs français.
Oui,
ça fait plaisir.
Il faut être fier. Ouais.
Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux fois lors de séances de dédicace, et c'est vrai que c'est un mec vraiment, vraiment super, quoi. Et de se dire qu'il a fait tout ça tout seul, quoi, c'est encore plus fou pour moi, c'est dingue.
Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner envie aux auditeurs d'aller lire ce premier tome de BD et tous les suivants?
Juste aller, même si c'est pas pour acheter Freaks Wheel, aller dans votre librairie bande dessinée pas loin de chez vous, essayer de vous renseigner auprès des vendeurs qui pourront vous dire qu'est-ce qui correspond à vos goûts, même si c'est pas forcément Freaks Wheel. Bien sûr, je vous le recommande chaudement encore une fois, mais voilà, il vous fera le tour un petit peu de qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, un petit peu comme ici. Là, vous conseillez et vous regretterez pas, quoi. Ouais, même découvrir des choses, c'est ça l'intérêt, hein, d'une librairie de bande dessinée. Pour moi, c'est de découvrir des choses.
Eh bien, merci pour cette belle recommandation.
Mais je t'en prie.
Il est maintenant temps de passer à la conclusion de l'épisode avec mes deux questions. La première, c'est la plus facile. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Et si oui, qu'est-ce que tu lis?
J'en parlais un petit peu avant, mais je lis beaucoup de shonen. Ces deux derniers jours, j'avais des commandes qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres. Je suis environ 6-7 séries en simultané. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, à raison de 4 ou 5 tomes par mois, environ, je mets à jour ma bibliothèque qui devient de plus en plus surchargée d'ailleurs. Donc, on commence à manquer de place. Mais j'ai toujours autant de plaisir à lire des mangas, quoi. Comme je le disais, même si c'est des mangas destinés à la jeunesse, ça me fait toujours autant plaisir de voir ce que certains auteurs arrivent à faire, surtout des œuvres comme Chainsaw Man ou My Hero Academia, qui essaient de renouveler un petit peu le stéréotype de ce genre de production.
La toute dernière question, elle est difficile.
C'est vrai.
Mais je sais que tu as préparé la réponse. Quelle est ta plus grande source de recommandation?
Ma plus grande source de recommandation, je dirais que c'est tout bêtement les réseaux sociaux. C'est des connaissances que je me suis fait, encore une fois, comme je le disais avant, par le biais de plein d'interactions sociales avec les podcasts, avec les émissions, etc. Qui n'hésitent pas à partager qu'est-ce qu'ils ont lu dernièrement, qu'est-ce qu'il faut suivre et tout ça. Et je leur fais entièrement confiance et c'est pour ça que ça reste encore aujourd'hui, je pense, ma source principale.
Est-ce que tu as un compte en particulier? Tu vois, tu disais que tu avais plusieurs séries de shonen en cours.
Oui, oui, c'est
Imagine, t'en finis une. À qui tu vas faire confiance?
Ben, je ne peux pas ne pas le citer, donc je dirais aller voir le compte de Papial, qui est un ami de l'époque justement de Synops Live, qui, à l'époque de l'émission, tenait une rubrique manga. Et c'est lui qui avait fait, par exemple, une super rubrique sur les éditions Kiun, qui aujourd'hui publie justement des mangas comme My Hero Academia, si je dis pas de bêtises, à une époque où personne ne savait encore qui c'était Kiun. Parmi d'autres, ça fait partie du genre de personnes que j'aime bien recommander. En plus, c'est un mec très sympa. On a même fait du Twitch récemment. On a fait une version doublée de la série de jeux Phoenix Wright. Et se tourner, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, on prenait les rôles des personnages qu'il y avait avec d'autres personnes. Voilà, ça fait partie du genre de personnes que je peux suivre les yeux fermés quand ils me recommandent des trucs, il n'y a pas de souci.
Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir consacré du temps pour cet épisode et pour cette recommandation.
Mais je t'en prie, merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.